Je ne vais pas ouvrir la Bible devant vous. On va projeter quelques versets de la Bible. Ah. Même des amis, des amitiés judéo-chrétiennes. C'est parfait. Merci beaucoup. Nous allons projeter ces paroles de la Bible. On va prendre quelques-unes simplement, les paroles clés. D'abord, vous dire qu'il y a trois paroles qui résument la vocation d'Israël. Ce sont les paroles que Dieu adressa à Abraham dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. « Va vers le pays que je te montrerai », donc un pays. Israël, c'est un pays. « Je ferai de toi une grande nation ». Israël est une nation, un peuple. « Et tu seras une source de bénédiction ». Pour toutes les familles de la terre, Israël est une bénédiction pour le monde entier. Donc Israël, un peuple, une terre, la foi, une bénédiction. Ce peuple, en fait, ne vit pas pour lui-même. Dieu lui a confié une mission, une parole, un message à donner au monde. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a tant souffert, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais Dieu le conduit à travers toutes les vicissitudes de son existence. Il y a dans son histoire, que je vais relier avec les paroles de la Bible, quelques-unes, il y a dans son histoire des repères. Alors, pardonnez-moi, je ne rentrerai pas dans les détails, simplement je vais donner l'essentiel, par rapport toujours à la Bible. Premièrement, vous parlez sur la chute de Jérusalem et la dispersion des enfants d'Israël. Je vais lire avec vous, ça va s'afficher, Luc chapitre 19. Donc il y aura des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Il parle à Israël de son époque, Jésus, il parle à Jérusalem, et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est arrivé à peine 40 ans après le Christ. Et une deuxième parole qui rejoint celle-là, Luc 21, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Des petites différences parfois de traduction. En effet, dans l'an 70, par les difficultés que l'armée romaine établissent sur tout le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, tout ce qu'ils rencontraient comme difficulté, Titus, en l'an 70, est venu avec 70 000 hommes. Il a détruit 1 million d'Israélites. Le temple a été détruit. Stupéfaction, terreur chez les enfants d'Israël et chez les chrétiens, j'imagine, devant l'objet du rassemblement de l'Alliance. Et puis, Rome, l'Empire romain, est dérouté par la force des insurgés. Il y a des résistants juifs, évidemment. Ils sont déroutés par la force des insurgés qui veulent, en plus, reconstruire le temple. Avec à leur tête un nommé Bar Corba. Et en 135, Bar Corba se révolte contre Rome. Cette fois-ci, Rome arrive avec 8 légions de soldats. Il rase la ville. Il détruit encore 200 000 juifs. C'est une catastrophe. Mais déjà, à cette époque, ils avaient mis à la place du temple un temple à Jupiter. Et ils avaient construit une colonie romaine autour du temple qui s'appelait en remplacement de Jérusalem, Aelia Capitolina. Donc il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'enfants d'Israël, 1 million plus 200 000, 1 200 000. Et le gouverneur romain, en signe de supériorité orgueilleuse, comme ça se faisait à l'époque, il a fait passer la charrue sur l'espace où était le temple, en disant, il n'y a plus rien, rien de rien. Et ça rejoint, il ne le savait pas, ça rejoint le prophète Michée au chapitre 3, verset 12, Sion, c'est le mont du temple, Sion sera labouré comme un champ. Ce n'est pas grand-chose comme parole. Mais la parole, elle a été prononcée 6 siècles et demi avant que ça arrive. Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Il ne reste plus rien. Les Juifs partent en exil, sont déportés. Bon, je passe tout ce temps. Il y a toujours eu des enfants d'Israël en terre promise, mais c'est difficile. J'arrive déjà, je vais vite, hein, j'arrive déjà à la Shoah, la destruction, la catastrophe. 1933, 42 à 45. La Shoah, il n'y a pas de prophétie directe. C'est étonnant. Un tel événement, pas de prophétie directe. Mais je vais simplement vous lire que ils tomberont, nous l'avons lu tout à l'heure, sous le tranchant de l'épée, et ils seront emmenés captifs parmi les nations. Et je pense que la Shoah s'inscrit comme une continuité. C'est un événement qui continue la destruction d'Israël. Alors il n'y a pas un texte clair, malgré l'importance de l'événement qui, moi, m'a toujours passionné dans le sens que c'est une histoire inouïe. Je peux donner des comparaisons avec le livre d'Esther. Esther, dans la Bible, c'est un livre qui se passe à Babylone, ça se passe au Proche-Orient de l'époque où Israël est déjà déporté là. Et il y a un homme qui s'appelle Aman, ou Aman, il avait décidé la destruction des Juifs qui étaient à l'époque en exil dans cette région. Et finalement, la solution finale, parce que c'était une solution finale, un décret avait été donné pour détruire tous les Juifs, et ça a été évité grâce à la reine Esther, qui était juive, mais par sa beauté et par une erreur de l'autre reine d'avant, elle a été nommée reine, choisie comme reine, et elle a pu éviter le massacre. Ce qui est étonnant, c'est que Aman, ses 10 fils ont été exécutés. 10. Et à Nuremberg, on a exécuté exactement 10 responsables de la solution finale, au procès de Nuremberg. Alors, il n'y a pas de texte, voilà. Mais écoutez, il y a quand même dans la Bible des paroles qui se rapprochent, qui nous font penser à la Shoah. Je vais en citer quelques-unes. Dans les Lamentations de Jérémie, qui parle de la destruction du premier temple, il y a ce passage, « Les enfants et les nourrissons sont en défaillance dans les rues de la ville. » Et j'ai pensé, Varsovie. J'ai vu pas mal de films tournés par les Allemands, enfin, films faits par les Allemands sur place, en 42-43, et j'ai vu souvent les enfants et les nourrissons par terre, dans les rues, qui meurent de faim. On les prend, on les met sur des charrettes, etc. Et puis, lamentation encore de Jérémie, chapitre 2, les enfants et les vieillards sont couchés par terre, dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Quand on voit des films de cette époque, on se dit c'est exactement ça. Et puis il y a ce texte aussi, Lamentation, chapitre 3, il m'a entouré d'un mur. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Et j'ai pensé, comme vous, à l'instant, au ghetto de Varsovie. Ça fait penser, c'est pas que ça, mais ça, c'est une analogie, c'est une ressemblance. Le ghetto qui enferme les Juifs, pour qu'ils ne sortent pas jusqu'à leur départ pour Treblinka. Et puis, Lamentation aussi, qui est un livre à la fois grandiose et puis sinistre. Il a brisé mes dents, ça c'est écrit 700 ans avant, hein. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Pardonnez-moi, je ne vais pas trop parler de ça, vous connaissez l'histoire, vous avez vu les reportages, des émissions sur ce domaine-là. Il a brisé mes dents. À la sortie des chambres à gaz, on cassait les dents des enfants d'Israël pour récupérer l'or ou l'argent. On les couvrait de cendres. Pour moi, il y a surtout un texte qui est très fort. On le met, c'est Amos, chapitre 8. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera en silence, bon, partout, tous les mots comptent là, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. Rien que ce verset, il nous indique déjà quelque chose sur la Shoah. On jettera partout une multitude de cadavres. Alors il dit dans ce texte que les chants, les chansons, les cantiques vont tourner en hurlements, en gémissements. On va passer dans une autre époque. Ça, c'est le temps de la Shoah. Et puis cette multitude de cadavres, littéralement, mot à mot, une multitude de cadavres sera en tout lieu. En tout lieu. Il y avait 6 camps d'extermination. Et dans ces 6 camps, en tout lieu, on a jeté des cadavres. Je reprends bien le texte hébreu. On jettera sur, en hébreu, sur. On jettera sur. En général, quand il y a des morts, on les met dans. Et là, c'est sur. Alors comment comprendre cela sans penser qu'on empilait les cadavres? Pardonnez-moi de dire ça, mais on les empilait. Et j'ai pensé à Babillard, évidemment, cette grande fosse énorme où l'on a entassé, on a empilé, on a jeté les uns sur les autres 33 000 enfants d'Israël, Babillard en Russie. Et puis les fosses, évidemment. Donc les mots, là, les mots sont très précis, très exacts. Et puis, encore un mot, on jettera en silence. J'ai lu les livres de Elie Wiesel, qui a été déporté. Et Elie Wiesel a été surpris par le silence des camps d'extermination. Pas un bruit. Et ce silence l'a impressionné. On jettera les morts en silence. Ça veut dire sans rien dire, sans prière. Important pour un juif. Pas de funérailles. Le silence des camps. Impressionnant. Et puis, Jérémie, chapitre 16, on ne leur donnera ni larmes, ni sépultures. Ils seront comme du fumier sur la terre. Pas de larmes, pas d'émotions, on ne peut plus. Les enfants d'Israël qui transportaient les morts, là, ne pouvaient pas relever la tête. Ils étaient dans un autre monde, pas de sépulture, rien. Et puis leurs cadavres serviront de fumier. Ça veut dire que, mais ça, ça a été écrit 27 siècles avant. On se servira de leur corps pour la terre. Donc ce seront des cadavres utilitaires. Mais oui, cette histoire nous a montré tout ce qu'on a pu faire avec les cadavres. C'est lamentable. Voilà donc la Bible qui rejoint, quelques mots, c'est très peu, il faut bien les trouver, qui rejoint l'actualité récente. Et puis, sur le retour, on ne dira plus, dit le prophète Jérémie au chapitre 16, on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. C'est pas l'Égypte, là, c'est le nord. Au nord d'Israël, il y a la Russie, il y a la Pologne. Donc, on prévoit un retour dans le futur qui viendra pas d'Égypte, mais d'autres pays. Le septentrion, ça veut dire exactement les sept bœufs. Parce qu'il y a dans la Grande Ourse, les étoiles de la Grande Ourse, il y a sept étoiles qui représentent un chariot et le chariot avec des bœufs et finalement septentrion, sept bœufs. Bon, voilà, je vous le dis. Et puis, dans l'Ancien Testament, a-t-on des images sur le retour des enfants d'Israël ? Parce que ça, c'est un événement exceptionnel. À côté de la Shoah, il y a deux événements pour eux, le retour et la destruction. Tous les textes que nous avons concernent le retour de Babylone, où ils ont été déportés pendant 70 ans. Tous les textes concernent ce temps-là. Mais en arrière-plan, derrière, en filigrane, on peut lire le retour des enfants d'Israël d'aujourd'hui. Pas de 27 siècles, mais aujourd'hui. Par exemple, ce fameux texte du prophète Ézéchiel, chapitre 37, quand le prophète est devant la vallée des ossements et que le Seigneur lui ordonne de prophétise, il parle, et il dit que l'Esprit revienne en eux. C'est une vision, ce n'est pas la réalité. C'est une réalité historique, mais c'est une vision. Et le Seigneur dit, devant ces os qui se remettent en marche et qui reprennent forme et vie, le Seigneur dit, voici, c'est la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés. Voilà ce qu'ils devaient penser depuis des siècles. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Mais le Seigneur dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Eh bien ça, depuis la fin des années 1800, ça s'est accéléré au XXe siècle par la Shoah justement, mais on a vu, on voit encore aujourd'hui, des enfants d'Israël qui reviennent. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il est question quelque part de ce retour qui me passionne, formidable, un peuple qui renaît de ses cendres? Alors, on va encore relire le chapitre 21 de Luc, juste un verset, parce qu'il y a, à mon avis, un seul verset, pas beaucoup, un seul verset dans le Nouveau Testament qui nous parle de ce retour. D'abord, je dois vous dire, je l'ai vécu, beaucoup d'entre nous l'ont vécu, la guerre des six jours, juin 67. Vraiment, les armées israéliennes ont mis une raclée à la Cisjordanie, à l'Égypte, en quelques heures, là, pof, c'était fini. Ils ont récupéré Jérusalem-Est, Ils ont déclaré que Jérusalem, capitale unifiée, réunifiée, serait la capitale d'Israël, avec un accès au mur des Lamentations. Tout à coup, l'histoire a changé. Alors, je reviens à notre verset. On le lit attentivement. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, les peuples et autres. Et ça, c'est la vérité depuis la révolte de Bar-Korba en 135. Les nations sont venues, ça veut dire qu'il n'y avait plus de juifs. Et pendant tous ces siècles, c'est le temps des nations. Dieu laisse les nations occuper sa ville sainte, occuper le temple. Il laisse les nations occuper l'espace jusqu'à ce que leur temps soit fini. Donc, en juin 67, c'était fini. Ça veut dire que Jérusalem n'est plus foulée aux pieds parce que, c'est simple, les Juifs sont revenus. Il y a bien sûr des gens étrangers à Jérusalem, mais les enfants d'Israël sont revenus depuis cette époque. Par conséquent, eh bien, les nations, leur temps est fini, c'est les Juifs qui occupent la place. Donc c'est le seul verset du Nouveau Testament où l'on sent le retour vers Jérusalem, vers Israël. Alors c'est étonnant parce que c'est un phénomène historique majeur. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un thème majeur du Nouveau Testament. On n'en fait pas des pages et des pages. C'est une étape dans la préparation vers le retour, écoutez bien, vers le Christ. C'est une étape. Il y a eu la dispersion, la destruction du temple, tout l'exil, la Shoah, le retour. C'est une chaîne d'événements qui va amener Israël vers le Christ. Donc Dieu tient les rênes. Alors maintenant, la question qui nous intéresse aujourd'hui, Israël est de retour, en partie, en grande partie. En tout, ils sont dans le monde 15 millions. Mais actuellement, en Israël, ils sont 6 millions. Il y a eu 6 millions de morts, ils sont en 6 millions aujourd'hui en Israël. Mais d'autres, des États-Unis, probablement devraient revenir. De France, en ce moment, ça revient. Comment faut-il considérer Israël aujourd'hui? Parce que nous sommes là. Le peuple de Dieu, c'est quand même aussi l'Église. Comment faut-il le considérer? Ce fils aîné. J'ai comparé Israël à un fils aîné. Puis nous, on est le fils cadet. On est venu après. Comment considérer aussi l'Église chrétienne? Comment considérer Israël? C'est vrai? Qui nous a donné la Bible, le Messie Jésus, Marie, des prophètes, des apôtres? Comment aujourd'hui l'Église considère-t-elle Israël? L'apôtre Paul, il dit, de toutes les façons, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance, dans l'Épître aux Romains. Alors, l'apôtre Paul, il nous laisse une parabole, une image, et pour moi, je la trouve sensationnelle. Forcément, c'est lui. Et je vous la donne. L'apôtre Paul, il compare Israël à un olivier, un arbre, un olivier, qui est le symbole d'Israël, en plus. Et il dit, les racines sont saintes, un olivier. Les racines, ça veut dire les patriarches. Les racines, ce sont les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Saint, ça veut dire pour Dieu. Ces hommes-là ont été mis au monde pour Dieu. Et voilà que sur cet olivier, il y a des branches aussi. Mais l'apôtre Paul découvre qu'il y a des branches coupées. Et ces branches coupées représentent, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est ainsi, l'histoire est ainsi. Ils représentent ces branches, elles représentent les Israélites qui ont refusé l'alliance avec le Christ. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit les Israélites qui ont tué Jésus, qui ont déicide, qui ont tué Jésus, qui ont tué Dieu. Non. C'est un faux raisonnement, c'est très mauvais ça. Ils ont refusé l'alliance qu'ils préparaient depuis des milliers d'années, qui fait partie de leur histoire, qui fait partie de leur gloire. Parce que quand même, pour Israël, accueillir son Messie, il n'y a pas plus beau que ça. Ils l'ont refusé. Mais Israël continue. Israël n'est pas mort. L'olivier est toujours là, sans ses branches. Alors nous qui sommes chrétiens, il ne faut pas faire les fiers. Il faut mettre profil bas. Il faut craindre. Parce que nous voyons celui qui ne croit pas en Jésus, qui refuse le Fils de Dieu, ne peut pas être sauvé. Écoutez, Israël, ils avaient la gloire avec eux. Ils avaient toutes les promesses. Ils avaient les patriarches. Ils avaient l'Écriture sainte. Ils avaient le temple. Mais comme ils ont refusé le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. C'est ce que disent les apôtres. Eh bien, ainsi la branche a été rejetée. Mais ils sont toujours aimés de Dieu. Attention, vous verrez la suite. Ils sont aimés de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il les a enlevés de l'olivier qui représente le peuple d'Israël. Mais, je vous le dis tout de suite, il faut aller vite, hein, c'est un rejet de Dieu provisoire. Parce que Dieu prévoit de les regreffer, quel travail, sur l'arbre. Il prévoit de les remettre. Ça va? Vous me suivez? Donc, ça veut dire, en somme, tous les descendants d'Abraham ne sont pas Israël. Israël, ce sont ceux, Israël selon Dieu, selon le cœur de Dieu, ce sont ceux qui ont fait tout ça, mais qui ont aussi reçu, accueilli le Christ. Bon. Et l'Église, c'est quoi? C'est pas un autre olivier. Il n'y a pas deux oliviers, il n'y en a qu'un. L'Église n'est pas un autre olivier. C'est pourquoi je crois que nous sommes tous Israël. Mais quand une partie d'Israël s'est endurcie contre Jésus, je ne pense pas à ceux qui ont mis en croix Jésus. Je crois qu'il fallait qu'il soit en croix. Mais quand Israël s'est endurci, mystérieusement, Dieu n'a pas dit, tant pis. Il a appelé les païens, des Bretons, des Français. Il les a appelés. Et ils ont répondu. Je suis un des leurs. C'est la parabole des conviés. Dans l'Évangile, Jésus appelle ses invités. Ils disent tous non, 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 je n'ai pas le temps, etc. Unanimement. C'est impressionnant, hein? Unanimement, ils refusent. Et le maître, c'est un maître de maison, c'est un roi. Il dit à ses serviteurs, allez dans les places publiques, allez dans les rues, dans les chemins, et ramenez tous ceux qui veulent, les méchants et les bons, et les boiteux, etc. Ramenez-les tous. Ça, c'est la venue des païens qui accueillent le Christ et qui vont devenir l'olivier, une partie de l'olivier. Et Dieu les greffe, c'est-à-dire qu'ils vont Ils vont profiter de la sève de l'olivier. Ils vont profiter de la richesse des pages de la Bible, la richesse d'Israël, des promesses, du Saint-Esprit, etc., du Christ. On va profiter de la graisse, comme disait l'apôtre Paul, la graisse de l'olivier. Greffée, on va recevoir des choses magnifiques, comme Israël autrefois. Donc ce n'est pas ces païens qui arrivent, ces nouvelles branches-là. Ce n'est pas un autre peuple, ce n'est pas une autre histoire. Ils les greffent sur l'olivier d'Israël. Ce n'est pas les Juifs qui viennent à nous, c'est nous qui allons vers eux. Bon, voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et puis, l'olivier, Israël, l'Israël de Dieu, l'Israël comme Dieu le veut, c'est le non-juif qui croit en Jésus, comme moi, et c'est le juif qui croit en Jésus. Voilà, le véritable olivier, le véritable peuple de Dieu, c'est les juifs. Ce sont des non-juifs, mais qui croient tous en Jésus. La clé, l'alliance, la porte. Question, on arrive bientôt à la fin, et ces branches coupées, ces branches retranchées, rejetées, que va-t-il leur arriver? Au début de l'ère chrétienne, il y avait beaucoup, beaucoup de juifs, on dit non. Et même Paul a dit, j'irai vers les païens. Voyez-vous, j'irai vers les païens. Mais il y a eu un reste. Il y a eu une partie d'Israël qui s'appelle dans la Bible le reste, qui va accueillir Jésus. Et Paul en est une preuve. Il dit, la preuve, c'est que moi je suis juif, je me suis converti et je me suis tourné vers le Christ, donc je reste Israël, converti. Eh bien, toutes ces autres branches-là, je ne parle pas au niveau physique des anciens juifs, ce n'est pas ça, mais par rapport à aujourd'hui, toutes ces autres branches coupées tout au long de l'histoire, le Seigneur les a greffées tout au long de l'histoire. C'était peu. Il y a des époques, les Juifs refusaient totalement dans un endurcissement extraordinaire. D'ailleurs, Paul il dit, c'est le mystère de l'endurcissement. C'était rien, rien à faire. On ne voulait pas de Jésus jusqu'à la fin, c'était comme ça. Et puis, il y a eu des conversions au fur et à mesure de l'histoire. Et le Seigneur les greffait sur son projet, il les greffait sur Israël, l'olivier. Ils se convertissaient et le Seigneur les greffait. La conversion, c'est se détourner de l'incrédulité, de son chemin sans Dieu, pour revenir vers Jésus. Et c'est recevoir, j'aime beaucoup ce mot biblique de Jean, l'apôtre Jean, et recevoir le Christ. Mais il ne faut pas qu'Israël, mais ils ne le font pas, il ne faut pas qu'Israël renie son héritage biblique. Israël, même converti au Christ, c'est quand même des Juifs descendants d'Abraham. Ils ne doivent pas renier leur héritage parce qu'une parole de Dieu leur a été adressée, ils en sont les témoins. C'est important, il ne faut pas renier le passé. Donc Jésus les a regreffés au fur et à mesure des années, des siècles, sur l'olivier. Et, je vous garde le meilleur pour la fin, à la fin de l'histoire, on y arrive tout doucement, à la fin de l'histoire, il y aura des conversions de Juifs de grande ampleur. En même temps. Pas un par un, brindille par brindille, en même temps, tout Israël sera sauvé. Conversion de millions de gens. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui va se passer? Mystérieux. Hein? Mais il y a un petit passage de la Bible dans l'Épître aux Romains qui dit « Dieu va provoquer leur jalousie par un peuple sans intelligence ». C'est vous, c'est moi. Enfin, quand il dit sans intelligence, ça ne veut pas dire bête. Ça veut dire un peuple qui ne cherche pas Dieu, qui ne le cherchait pas. Et voilà qu'ils vont trouver Dieu sans le chercher. Alors que Dieu tend ses mains vers son peuple qui est rebelle, contredisant, dit non, toujours non. Bien, Dieu a dit, je vais aller voir les autres. Et quand Israël verra, actuellement on est certainement plus près de 2 milliards de chrétiens, poussés par le Seigneur, ils vont éprouver une jalousie. C'est ce que Paul dit, une jalousie. Et ils vont se tourner vers le Christ, et le Christ va les regreffer sur l'olivier, Israël, son peuple. Mais ce retour vers l'olivier va provoquer dans le monde un raz-de-marée, enfin, comme une résurrection. C'est-à-dire le fait d'être greffé à nouveau sur le peuple, ça va provoquer un moment extraordinaire pour l'Église qui va arriver à sa beauté, à sa splendeur. Puis c'est des temps futurs, ça. Comme une résurrection, comme les ossements desséchés qui tout à coup se remettent. Parce que dans les églises d'aujourd'hui, c'est pas facile. Dans le monde entier, il y a des choses abominables, il y a des choses de très grande lourdeur. Puis voici qu'à la fin, les Juifs reviennent et il y a un souffle de printemps qui passe sur les églises. Dites donc. Je ne sais pas s'il y a des enfants d'Israël parmi nous. Ce sont deux frères inséparables. Israël et l'Église sont inséparables. La conversion des païens va provoquer la conversion des juifs. Et la conversion des juifs va provoquer une véritable résurrection. La conversion des juifs va provoquer comme une résurrection chez les non-juifs. On est inséparables. Je crois qu'on est fait pour se rencontrer, pour s'aimer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de juifs en France dans les églises, mais bientôt, on sera débordé. Bon. Jésus avait dit, j'ai été envoyé d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La priorité de Jésus, c'était d'abord les juifs. Et l'apôtre Paul, il dit souvent, les juifs premièrement, parce qu'ils ont la clé. Jésus avec eux. Donc, je vais conclure en vous disant que l'État d'Israël, qui provoque aujourd'hui beaucoup de remous dans le monde, ce n'est qu'une étape nécessaire. Et vous comprenez que la Shoah, elle a été faite pourquoi ? Bon, c'est compliqué, on ne peut pas dire ça en trois mots. Mais surtout pour empêcher la résurrection du monde, le renouveau spirituel, humain, du monde, une Pentecôte, une grande Pentecôte. Ce qui est étonnant, c'est que dans les Actes des Apôtres, au moment de la Pentecôte, Pierre y fait un discours, puis, je ne sais pas dans son discours, moi je n'ai jamais compris, il mélange tout. Il mélange la fin du monde avec le temps des apôtres, avec le temps passé des prophètes, tout est mélangé. Et il dit en fait la vérité. Il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, il y aura des signes dans le ciel, sur la terre, et je répandrai, dit le Seigneur, mon esprit sur toute chair. Le renouveau. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Vos fils et vos servantes me serviront, vos fils auront des visions, mes vieillards auront des songes. Il y a un renouvellement du monde parce que l'Esprit descend sur les enfants d'Israël. On n'a pas fini d'en parler. Je vais vous citer Zacharie, chapitre 12, sur la conversion d'Israël. Je répandrai sur les habitants, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, qui à l'époque étaient serrés par leurs ennemis, un esprit de grâce, c'est au futur ça, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est fort. Des centaines d'années avant que Jésus vienne, celui qu'ils ont percé. Écoutez bien, vous lisez comme moi. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Tous les mots sont étonnants. Comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement, la repentance, le regret, comme on pleure sur un premier-né. Et Jésus était un premier-né aussi. Il y a peu de choses, mais ce sont des petites pierres précieuses qui nous rattachent à l'histoire, à nous, à la réalité. Et je terminerai avec ce texte du prophète Osée, toujours 7 siècles avant à peu près. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, ça a pris 2000 ans, sans chef, sans sacrifice. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, la conversion. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Je prie le Seigneur pour que vais-je demander au Seigneur? Ce qui pour moi importe le plus, c'est que nous tous qui sommes là, nous puissions aller vers Jésus-Christ. Car si je considère ce peuple, enfin une partie du peuple, qui s'est vu rejeté parce qu'ils ont refusé, ils ont rejeté eux-mêmes Jésus, je me dis, attention, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, seul lui, autant pour moi que pour eux. Il n'y a pas une faveur spéciale pour Israël, comme s'il y avait 2 portes d'entrée dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de faveur spéciale en disant, vous êtes des Juifs, donc par conséquent, pour eux, la route, pour vous, la route est ouverte. Oui, la route est ouverte, mais parle. La seule porte, par celui qui ouvre seul la porte, Jésus. Bon, je n'ai pas réponse à tout. Nous allons prier quelques instants le Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous tenir en éveil, pas seulement sur l'actualité, mais sur notre vie, afin que nous gardions toujours nos yeux tournés vers toi, celui que nous avons percé à cause de nos iniquités. Seigneur, garde-nous simples et humbles et toujours confiants, attachés à la vérité que nous ne pouvons pas changer, mais qui nous changera par Jésus-Christ. Amen.